devant une chose intrigante. C'est qu'il n'y a pas dans le décalogue « tu ne diras pas de mensonge » ou « tu ne mentiras pas ». Et je vais peut-être étonner certains d'entre vous, parce que contrairement à certains éthiciens chrétiens, je vais vous dire que dans certains cas, il faut mentir. Le texte de l'Exode, c'est littéralement, si on décalque sur l'hébreu, tu ne répondras pas contre ton prochain en faux témoin. Tu ne répondras pas contre ton prochain en faux témoin. Et Maillot va jusqu'à dire, tu ne déposeras pas contre ton prochain en faux témoin. Parce que c'est une expression qui est certainement juridique, et au fond, c'est une bonne traduction quand même, Maillot. Il s'agit du témoin. Or, on est témoin dans un procès. Alors, en disant « tu ne déposeras pas en témoin de fausseté », parce que littéralement aussi, hein, c'est « en témoin de mensonge ». « Tu ne déposeras pas en témoin de mensonge », c'est-à-dire comme un témoin menteur, contre ton prochain. Je ne me lance pas dans l'hébreu, puisque je sais que plusieurs d'entre vous, peut-être même la majorité d'entre vous n'en a pas fait, mais c'est très net dans le texte hébraïque, n'est-ce pas ? C'est bien le sens. Mais enfin, moi je prendrai quand même la simple traduction de la Bible à la Colombe. Tu ne diras pas de faux témoignage. C'est là d'ailleurs la traduction classique, courante. Tu ne diras pas de faux témoignage contre ton prochain. Je vous ai lu tout à l'heure, dans le livre des Rois, l'histoire de la vigne de Naboth. C'est intéressant parce que donc Jézabel s'est arrangée pour qu'il y ait un procès, pour qu'il y ait des faux témoins et pour que ça aboutisse à la lapidation de Naboth. La Torah, en tant que livre de droit révélé, exige qu'il y ait au moins deux témoins. Et les témoins jouaient en Israël, et jouent d'ailleurs dans les procès, toujours, partout, un rôle très important. On pourrait même dire que sans témoins, il ne pourrait pas y avoir de procès. Alors les indications qu'il faille au moins deux témoins se trouvent en Deutéronome 17.6 et 19.5, 17.6 et 19.5, et en Nombre 35.30. Nombre 35.30. Ce commandement, neuvième, comme tous les autres, se rapporte aussi au premier commandement. Il n'y a de Dieu que Dieu, il n'y a de vérité que Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Et donc, puisque Dieu est la vérité, puisque sa parole est la vérité, pas question que tu dises de faux témoignages contre ton prochain. On pourrait aussi, en analogie, dire que le prédicateur peut être un témoin trompeur s'il quitte la parole de vérité. L'exégète peut être un témoin trompeur s'il quitte la parole de vérité. Et on n'a pas le droit de se mettre à la place de Dieu et finalement d'inventer une vérité.
En grec, vous avez exégésis, dont nous avons fait exégèse, avec le ex qui commence le mot. Qu'est-ce que c'est que l'exégèse? C'est tirer du texte son contenu de sens. Eh bien, très souvent, nous faisons de l'exégèse exégèse. C'est-à-dire que nous mettons dans le texte ce que nous tirons, un petit peu comme les prestidigitateurs qui ne tirent de leur chapeau un lapin que parce que le lapin y est déjà caché. Ah, évidemment, très souvent, et il faut que nous nous en méfions, nous risquons de mettre dans un verset de la Bible, nous risquons de mettre dans un passage de la Bible quelque chose que nous tirons ensuite, parce que comme un bon prestidigitateur, d'abord nous l'y avons mis. Alors il faut nous méfier de l'exégèse, et que notre exégèse soit vraiment de tirer du texte, n'est-ce pas? Ça, ça veut dire hors de, ex, et là ça veut dire dans, eis. Hein? Alors il ne faut pas mettre dans le texte ce qu'ensuite nous en tirons, mais il faut tirer du texte ce qui s'y trouve. Sinon, nous sommes des témoins trompeurs, comme exégètes ou comme prédicateurs. Et vous savez que le Christ lui-même a été victime de faux témoins, Matthieu 26, 61. Ses adversaires ont fait appel à de faux témoins. Si le Christ est mort, c'est sur le témoignage de faux témoins. C'est parce que des hommes, des juifs, ont désobéi à la 9e parole du décalogue et ont dit de faux témoignages contre leurs prochains. En fait, si vous lisez Deutéronome, les textes que je vous ai indiqués dans le Deutéronome, ces textes, le contexte le montre, visent aussi les faux prophètes, les devins, l'occultisme, le spiritisme. Et là, vous voyez, si on prêchait davantage la loi dans les églises, les fidèles seraient instruits à ne rien pratiquer touchant à l'occultisme ou touchant aux choses des devineresses. Et bien sûr, au spiritisme. Ça m'a frappé, je vous l'ai déjà dit, je crois, lorsque je suis arrivé au Québec et que j'ai lu les quelques journaux, il y en a un qui s'appelle La Presse, si je me souviens bien, qui s'appelle Le Devoir, j'étais assez étonné de voir qu'il y avait des horoscopes, exactement comme dans les quotidiens français. Et je vous assure, c'est terrible de penser que chaque matin, il y a des millions d'Occidentaux qui regardent leur horoscope du jour dans le journal. Et selon ce que leur dit l'horoscope, ils vont se conduire de telle ou telle manière, ils vont faire telle ou telle chose. C'est quand même d'autant plus formidable et d'autant plus idiot, dirais-je, que si l'on regarde deux quotidiens différents, on lira pour le même jour des horoscopes différents. Mais ça ne trouble pas les gens, ils continuent quand même à consulter les horoscopes, ça ne les dérange pas. Mais cette parole du décalogue a, avant d'aborder la question des individus, un grand intérêt pour deux institutions divines, l'institution de l'Église et l'institution de l'État. Je commencerai d'abord par l'État. Ce commandement, dans la mesure justement où son vocabulaire montre, touche est une expression juridique, ce commandement qui est une expression juridique est très important d'abord pour l'État. Or, je vous l'ai déjà signalé, je crois, la dernière fois, c'est-à-dire avant-hier, ce qui est affreux, c'est de penser qu'aujourd'hui, les faux témoins en cours de justice ne sont jamais ou presque jamais poursuivis. À l'heure actuelle, quand quelqu'un dit un faux témoignage, il peut se faire rabrouer par le président du tribunal. Mais ça ne va pas au-delà. Alors que normalement, un faux témoin devrait être gravement puni, condamné à une très forte amende, et condamné en tout cas d'une manière très nette. Parce que finalement, le faux témoin va entraîner soit l'acquittement d'un coupable, soit la punition d'un innocent. Et donc, c'est très important, cette parole, par rapport au droit en général, par rapport au droit pénal. C'est très très important. Mais c'est très important aussi dans le domaine de l'Église et dans la discipline de l'Église. Alors là, vous avez des indications très précises. D'une part, dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 18, les versets 15 et 16, Matthieu 18, 15 et 16, et aussi dans l'enseignement de saint Paul, qui va dans, exactement, bien sûr, dans le même sens que Jésus, dans 2 Corinthiens 13, 1, et dans 1 Timothée 5, 19. Je répète, 2 Corinthiens 13, 1, 1 Timothée 5, 19. Et pour ne pas faire le tout, vous pouvez même ajouter Hébreux 10, 28. Donc, dans les cours de justice et dans la discipline ecclésiale, ce commandement a une très très grande portée. Et c'est pourquoi le droit biblique condamne sévèrement le parjure. J'aime mieux vous dire que le parjure est sévèrement condamné. Les cours de justice de l'État devraient tenir compte de ce qu'enseigne le droit biblique. En tout cas, dans les premiers siècles de notre ère, et à certaines époques du Moyen-Âge et de la Réformation, on était revenu dans pas mal d'États au droit biblique. Vous savez que le droit biblique a eu un impact considérable sur les législations pendant des siècles, et je crois qu'il faudrait y revenir. Et aujourd'hui, le parjure, c'est-à-dire le faux serment, devrait être condamné. Alors, comme texte, je vous en indique quelques-uns. Lévitique 19, 12. Ça, c'est la condamnation du droit biblique du parjure. Lévitique 19, 12. Deutéronome 17, 6, 7. Et 19, 16. Je répète, Deutéronome 17, 6 et 7, Deutéronome 19, 16 à 21. Vous avez aussi Proverbe 19, 9 et 25, 18. Je répète, Proverbe 19, 9 et 25, 18. Et tout ceci est repris dans le Nouveau Testament, Matthieu 19, 18. Matthieu 19, 18, Marc 10, 19, Marc 10, 19, Luc 18, 20, Luc 18, 20, Romains 13, 9, etc. Mais, c'est un premier niveau, si l'on passe à un autre niveau, on s'aperçoit que dans la vie courante, en prêtant attention aux soupçons et en communiquant ce qui n'est que soupçon, supposition. Soupçon, supposition, c'est identique. Ce sont des mots qui ont le même sens. Un soupçon, c'est une supposition. Ou bien en étiquetant les gens, en étiquetant, on leur colle une étiquette, pof. Eh bien, on va très facilement dans le sens du mal fait au prochain. En fait, on porte un faux témoignage contre son prochain. Donc j'attire votre attention que nous devons veiller à notre langue, ça c'est tout l'enseignement du livre des Proverbes, puis du livre sapiencial du Nouveau Testament, qui est l'épître de Jacques. Bon, il y a tout un passage de Jacques sur la langue, hein, qui est un passage d'ailleurs très beau, très intéressant. Je n'ai pas le temps de le commenter, vous le commenterez vous-même. Faut prêcher sur des passages comme ça, vous savez. Il ne faut pas avoir une prédication qui ne soit que la prédication de l'Évangile, je le répète. Il faut avoir une prédication qui soit aussi la prédication de la loi. Et les ensemble, d'ailleurs, parce qu'il faut que l'Évangile accompagne la loi et que la loi accompagne l'Évangile. Il faut prêcher les deux ensemble. Il faut que toute prédication apporte un Évangile et apporte une loi. Et il faut toujours, parce que c'est ça qui montrera à nos paroissiens, non, on ne dit pas paroissiens, hein, en France on dit paroissiens, ici on dit à toute la congrégation. Mais il faut montrer à toute la congrégation que vraiment, la vie chrétienne, c'est une chose qui se passe sur la terre, et qu'il faut une obéissance à la loi et au commandement de Dieu. Alors la langue mensongère, la calomnie. Alors, on peut lire des textes ou prêcher sur des textes comme Proverbe 6, 16, 19, ou bien encore, alors je répète, Proverbe 6, 16, 19, pour la langue mensongère, et puis pour la calomnie, des textes comme Deutéronome 22, 13, 21, Deutéronome 22, 13, 21,
et Lévitique 19, 16, 17. Lévitique 19, 16, 17.
Alors, j'en viens à ce que je vous annonçais. Mes amis, alors ne vous étonnez pas, je vais peut-être un peu vite, mais je suis obligé si je veux faire aussi la dixième parole. Je voudrais maintenant, dans un second chapitre au sujet de cette neuvième parole, vous parler du mensonge. Je vous ai dit tout à l'heure que le mensonge était chose non seulement légitime, mais nécessaire en certains cas. Et je voudrais justifier ce que je vous ai dit en commençant. Nous avons plusieurs cas, je ne les citerai pas tous, où la Bible célèbre, loue des gens qui ont menti. Vous avez un premier exemple dans le livre de la Genèse, lorsqu'on voit Abraham d'abord, puis Isaac ensuite, mentir pour éviter meurtre et viol. Ceci nous est rapporté dans Genèse 12, 11 et 13, Genèse 12, versets 11 et 13, Genèse 20, verset 2, Genèse 26, versets 6 et 7. Je répète, Genèse 12, 11, 13, 20, 2, 26, 6, 7. Or, tous les deux, Abraham et Isaac, sont bénis par Dieu, alors que les hommes qui les ont placés dans de telles circonstances sont condamnés ou jugés. Il suffit de lire la suite, Genèse 12, 15, 20, Genèse 20, 3, 18, ou Genèse 26, 10, 16. Si je vous indique avec précision ces textes, je répète Genèse 12, 15, 20, 20, 3, 18, 26, 10, 16. Quoi la suite des textes précédemment indiqués? C'est parce qu'on voit Abraham, Isaac mentir. Abraham, par exemple, dit que sa femme et sa sœur, etc. Bref, pour éviter meurtre et viol, Abraham et Isaac mentent. Deuxième exemple, dans Exode, chapitre 1, verset 15-21, on voit les sages-femmes des Hébreux mentir pour sauver les petits garçons israéliens qui naissent. Or, elles sont louées parce que, ce faisant, elles ont craint Dieu plus que le Pharaon. Elles ont eu plus la crainte de Dieu que celle du Pharaon. Elles ont même risqué leur vie en mentant ainsi. Elles sont louées de ce qu'elles ont fait. Exode 1, 15, 21. Et enfin, dernier exemple, c'est celui de Rahab, raconté en Josué 2. Elle a menti pour sauver les espions d'Israël. Et Rahab reçoit l'éloge de Jacques 2, 25 et de Hébreux 11, 31, Jacques 2, 25 et Hébreux 11, 31, qui loue sa foi. Alors, je me refuse pour ma part, on peut très bien ne pas être d'accord avec moi, mais je me refuse pour ma part sur ce point, c'est le seul point, à me trouver d'accord avec l'éminente exégète John Murray dans son Principles of Conduct. Parce que vous lirez vous-même ce que dit Murray dans Principles of Conduct, je dis que Murray, pour une fois, alors que vraiment je le suis pour le reste, pour une fois fait de la mauvaise casuistique et essaye de montrer que c'est pas quand même pour leurs mensonges qu'ils sont loués, etc. Tout. Enfin, il essaye de décortiquer les textes. On ne peut pas faire ça. Et je suis tout à fait d'accord, par contre, avec l'interprétation que donne Rushdoony dans son Institutes of Biblical Law, qui dit ce que je vais vous dire maintenant. à savoir que le mensonge est non seulement permis, mais je dirais presque ordonné dans certains cas. Et alors je vais essayer de vous dire comment je vois les choses. Bien sûr, vous savez, le professeur, il donne son cours, il dit ce qu'il pense, vous, vous écoutez, et puis devant Dieu, vous réfléchissez après, et puis ou bien vous approuvez votre professeur, ou bien vous vous entrez dans une voie nouvelle. Autrement dit, je ne veux rien vous imposer, simplement, je vous dis ce que je crois. C'est un certain moralisme qui s'insurge contre toute justification d'un mensonge. En faisant cela, le moraliste réduit les problèmes. Et il veut établir un choix entre un vrai et un faux qui sont tous les deux absolutisés. Si j'absolutise un certain vrai, ou si j'absolutise un certain faux, alors évidemment, je vais être obligé de choisir le vrai absolutisé plutôt que le faux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est obligé. Et surtout, c'est, me semble-t-il, préserver la pureté morale individuelle au mépris d'un acte plus responsable et plus courageux. Eh bien, si vous voulez, on préserve la pureté morale individuelle au mépris d'un acte plus responsable et plus courageux. Je dis que les sages-femmes ont été courageuses. Je dis que Rahab a été courageuse, parce que les sages-femmes ont risqué leur vie en mentant, parce que Rahab a risqué sa vie en mentant. Et ils se sont engagés, et alors au nom d'un prétendu moralisme, pour sauvegarder une prétendue pureté de Rahab ou une prétendue pureté des sages-femmes, on est hors de la Bible. Mais je vais plus loin. Je vais plus loin. Le chrétien est tenu de toujours dire la vérité quand il s'agit de la vie quotidienne ordinaire et, j'allais dire, d'une communication normale entre les êtres. Donc mon enseignement, c'est qu'il ne faut jamais mentir dans la vie quotidienne normale. Mais, et c'est le cas des textes dont j'ai parlé, dire la vérité à un agresseur, ou à un voleur, ou à un meurtrier, pour lui permettre de réussir son agression, son vol ou son meurtre, c'est devenir complice de cette agression, de ce vol et de ce meurtre. Dire la vérité à un agresseur, à un voleur ou à un meurtrier, c'est alors participer à son crime. Et c'est ce qu'ont légitimement n'ont voulu faire ni Abraham, ni Isaac, ni les sages-femmes, ni Rahab. C'est ce que, pendant la dernière guerre, en France, on n'hésitait pas à faire pour sauver la vie d'un juif qu'on cachait. On cache un juif dans sa cage, dans sa cave, la Gestapo arrive, demande: est-ce qu'un juif est caché dans votre maison? On doit lui répondre par un mensonge, parce qu'on ne veut pas participer à un crime, et parce qu'on ne doit pas la vérité à un chenapan, à un brigand. Et la Gestapo, c'était une bande de brigands. On n'a pas à dire la vérité pour devenir complice d'un meurtrier. Voilà. Donc, vous voyez, mon point de vue est le suivant. On ne doit jamais mentir dans la vie quotidienne, mais dans une circonstance extraordinaire. Hein? Et lorsqu'on dit d'un mensonge à un meurtrier pour ne pas être complice de son crime, je dirais non seulement que c'est permis, mais je dirais que pour moi c'est moralement obligatoire. Et c'est pour ça que je ne crois pas qu'on puisse traiter de désobéissant au commandement Rahab, Abraham, Isaac ou les sages-femmes. À mon sens, elles ont bien fait ce qu'elles ont fait, et d'ailleurs, dans des prédications, pendant la dernière guerre, un certain nombre de pasteurs en France et ailleurs ont enseigné que dans certains cas, le mensonge était permis. Alors évidemment, on peut très bien être en désaccord, et avec cela, et en particulier John Murray n'est pas d'accord avec ça, mais alors vous verrez je ne vous raconte pas. Vous verrez vous-même, en lisant Principles of Conduct, c'est la seule page pour moi dans ce livre qui ne colle pas, par quelle acrobatie incroyable. John Murray arrive par exemple à dire, oui, Rahab est louée par Jacques, elle est louée par la lettre aux Hébreux, on loue la foi de... Mais quand même, Jacques et Hébreu ne louent pas le mensonge de Rahab. Oui, mais alors je me dis, mais alors, qu'est-ce qu'il loue? Comment est-ce que Rahab a pu faire ce qu'elle a fait, puisque tout ce qu'elle a fait reposait sur le mensonge? Alors vous verrez, je préfère ne pas vous le dire, vous verrez vous-même, je crois que c'est une casuistique infernale dans laquelle il ne faut jamais rentrer, par laquelle, pour sauvegarder la pureté, si j'ose dire, la pureté de Rahab, eh bien, John Murray essaye de dire, non, mais quand même, et sa foi est louée. Et oui, c'est justement sa foi qui l'a fait mentir. Mais la foi est louée, mais pas le mensonge. Mais alors, vous verrez, comment est-ce qu'on peut séparer la foi de Rahab et le mensonge qu'elle a prononcé, étant donné que c'est justement en mentant qu'elle a manifesté sa foi. Et que toute la foi dont est louée Rahab repose au fond, en un sens, enfin je veux dire, est liée au mensonge qu'elle a énoncé. Et c'est exactement la même chose pour les sages-femmes. Les sages-femmes ont sauvé les garçons d'Israël en mentant aux envoyés du pharaon. Mais je dirais, le pharaon était un criminel qui ordonnait le massacre d'enfants innocents. Il ne s'agissait pas d'avortement, mais il s'agissait d'infanticide. D'ailleurs, l'avortement et l'infanticide, c'est kiff-kiff bourricot. Mais là, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Les sages-femmes ont bien fait en mentant. Elles ont bien fait. Mais c'était exceptionnel, parce que c'est quand même exceptionnel que l'autorité de l'État ordonne un meurtre. Et si l'on obéit alors à l'État en lui disant la vérité, en ne lui mentant pas, on se rend complice du meurtre. Voilà. Alors donc, j'espère que, de même, les chrétiens, à mon sens, doivent être aussi gentils.
On ne veut pas commettre de meurtre. Merci.
De même, les chrétiens doivent être opposés à l'usage des détecteurs de mensonges. Parce qu'avec un détecteur de mensonges, on peut envahir la vie privée de n'importe qui. Or, l'État n'a jamais le droit d'envahir nos consciences. L'État n'a le droit de juger que sur les choses extérieures, sur les paroles, sur les actes. Mais l'État n'a pas le droit de vouloir sonder les choses qui sont dans le cœur, qui sont dans la conscience. Et c'est pourquoi, à mon sens, c'est pourquoi nous ne trouvons pas dans la Bible un commandement « Tu ne commettras pas de mensonge » ou « Tu ne mentiras pas ». Mais on a « Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Voilà. Cependant, une fois que j'ai dit ça, parce que je veux être honnête avec l'ensemble de la Bible, il faut bien voir que la Bible déclare ouvertement que Dieu a en horreur le mensonge. Elle désigne Satan comme le père du mensonge. Et il est interdit aux chrétiens de mentir, sauf, je le répète, dans des circonstances extraordinaires. Mais c'est quand même assez extraordinaire d'avoir besoin de cacher un juif contre la Gestapo. C'est assez extraordinaire de devoir cacher les espions d'Israël. C'est assez extraordinaire que de mettre un parachutiste anglais dans son grenier alors qu'il est recherché par l'armée allemande. J'appelle pas ça la vie ordinaire. Donc je dirais, il y a la vie ordinaire et puis il y a des cas exceptionnels, des cas rarissimes, qui ne vous arriveront peut-être jamais, qui n'arriveront peut-être jamais à aucun, mais ni, je dirais, n'absolutisez pas un espèce de vrai et un espèce de faux imaginaire. Il peut y avoir, je le répète, à la lumière de la Sainte Écriture, des cas rarissimes où le mensonge soit tout à fait, non seulement permis, mais je dirais ordonné par Dieu. Si, par exemple, je me rends complice d'un meurtrier en lui disant la vérité, imaginez, je ne sais pas, un homme qui est fou, qui est devenu fou, il veut absolument tuer sa femme, etc., se venger parce que, soi-disant, les communautaires, je ne sais pas, peu importe la raison, il veut tuer sa femme. C'est-à-dire, la malheureuse vient se réfugier chez moi. Bon, si le fou arrive et me dit, allez, où est ma femme? Ah ben, je vous en prie, elle est là. Enfin, c'est effarant. Je ne vais quand même pas indiquer à ce forcené où est sa femme pour qu'il la tue.
Je vais au contraire lui mentir, et puis je vais arranger les choses. Je vais lui dire, oh non, je n'ai pas vu votre femme, mais asseyez-vous, calmez-vous, on va discuter un peu le coup. Il se peut d'ailleurs très bien qu'à la fin de cet entretien, je lui dise, bon, ben maintenant que vous êtes calmé, je peux vous le dire, votre femme est là. Mais... Voilà. Bon. Tandis qu'évidemment, vous avez certains moralistes chrétiens qui disent un chrétien ne doit jamais, dans aucun cas, même exceptionnel, mentir. Il doit toujours dire la vérité. Et alors, malheureusement, ces chrétiens sont presque obligés de dire qu'ils vont tenter Dieu. Ils vont tenter Dieu parce que, par exemple, ils vont dire, je vais dire la vérité, je vais dire à la Gestapo que le juif est caché là. Mais du moment que je dis la vérité, Dieu va me bénir, et alors il va faire un miracle, et la Gestapo ne me croira pas, ou bien la Gestapo ne va pas fouiller la maison. Non, parce qu'alors là, c'est tenter Dieu, c'est exiger de Dieu, pour sauvegarder, je dirais, sa pureté morale, exiger de Dieu un miracle. Or, nous, non, vous savez, quand on a connu de près ce que pouvait être la Gestapo, et on s'aperçoit bien que on n'a pas escompté même un retournement de leur part. Alors évidemment, on vous raconte de ça des choses possibles qui sont arrivées. Je ne dis pas qu'elles sont peut-être arrivées, par lesquelles le chrétien ayant dit la vérité d'une manière fantastique, extraordinaire, Dieu a fait que finalement ça n'a pas abouti à un désordre. Bon, moi je dis que c'est tenter Dieu. C'est tenter Dieu parce que c'est vouloir exiger de Dieu un miracle. Alors, comme Dieu a la possibilité de faire un miracle, s'il plaît à Dieu de faire un miracle, et vraiment dans un cas où quelqu'un serait assuré par une voix qui vraiment est absolue que Dieu va faire un miracle, moi je veux bien qu'on dise la vérité. Enfin, moi je ne me suis jamais trouvé dans un cas comme ça, et j'ai préféré dans certains cas mentir. Je peux ensuite, si l'on veut, demander pardon à Dieu, mais je demande peut-être pardon à Dieu d'avoir été obligé de mentir, mais je ne lui demande pas pardon d'avoir menti. Je puis lui demander pardon d'avoir été dans l'obligation de mentir, mais je ne lui demande pas pardon d'avoir menti, parce que je crois que dans certains cas, au contraire, c'était bien le mensonge que Dieu me demandait, parce que je ne dois pas la vérité à un meurtrier qui veut que je lui dise une vérité pour perpétrer son crime. Voilà mon argument, c'est ça. Je ne dois pas la vérité, et même, je dirais plus, à ce moment-là, je vais, en disant la vérité, être contre mon prochain. Parce que mon prochain n'est pas le meurtrier qui me demande la vérité, mais l'innocent que je protège. Vous voyez le point? Oui, vous voulez
dire?
Comment?
Le mensonge, généralement, les gens procèdent pas de mensonge, se protéger eux-mêmes,
oui.
Ou avoir des avantages pour eux-mêmes, ou protéger
ah oui.
Les autres.
Ah oui, alors...
L'autre, c'est pour...
Ah non, non, tant... Et puis en plus, ce sont des cas, je le répète, hors de la vie quotidienne, des cas rarissimes, qui n'arriveront peut-être jamais. Moi, ça m'est arrivé deux fois, mais parce que c'était des situations toutes particulières dans la France occupée. Vous voyez, tandis que dans la vie courante, jamais je ne me suis plus jamais retrouvé depuis, il y a 30 ans que la guerre est finie, et bien depuis 30 ans, je ne me suis jamais retrouvé dans une situation telle que je devais mentir. Je le répète, je devais mentir. Dieu m'imposait en quelque sorte de mentir, parce que je devais sauver une vie devant des malfaiteurs. Vous voyez ? Mais, je répète, c'est très rare. Mais c'était aussi très rare de voir un chef d'État ordonner la mise à mort de tous les garçons qui naissaient. Hein, c'est des cas exceptionnels comme ça. Et alors j'arrive, pour finir, à la dixième parole. Alors la dixième parole se trouve une parole différente en Exode 20 et en Deutéronome 5. Différente, mais je dirais même que cette différence est plutôt éclairante, donc nous devons assumer ensemble, sans problème, sans difficulté, les deux paroles. Je vous lis d'abord Exode, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. En hébreu, nous avons l'otarmod, hein. Tu ne convoiteras pas, c'est le même verbe qui est employé. Dans Deutéronome, on a deux verbes employés. on a d'abord « tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». Alors là aussi, nous trouvons l'eau Tarmod. Et ensuite, on a « tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, etc. » Donc, on peut tenir compte de cette différence. Ce qui est commun, hein, aux deux commandements, c'est que nous ne devons pas convoiter la femme du prochain. Mais alors là, nous arrivons à l'intériorisation simplement du commandement « tu ne commettras pas d'adultère ». Mais ce qui nous est interdit aussi, c'est l'envie. L'envie. Le désir. Tu ne désireras pas ce qu'a ton prochain. Tu ne désireras pas sa maison, tu ne désireras pas son champ. Vous savez, c'est une chose qui m'est arrivée, je ne sais pas si à vous c'est arrivé, mais moi, je confesse, ça m'est arrivé. Dans certains cas, on a une envie qui vous pousse là, on se dit, oh, on a envie d'une maison comme ça, ou on a envie d'une automobile comme ça, ou on a envie, bref, de quelque chose qu'on parle au prochain. Moi, ça m'est arrivé, ça peut n'être qu'un... que quelque chose qui passe là comme ça, mais un petit sentiment d'envie, un petit sentiment de convoitise. L'intérêt de cette parole, c'est que de toutes les 10 paroles, elle est celle qui ôte toute possibilité de justification. Il y a des hommes qui peuvent honnêtement dire, je crois, honnêtement dire, je n'ai jamais volé, au sens, je n'ai jamais pris un portefeuille, ou je n'ai jamais pris quelque chose qui appartenait à mon prochain. Il y en a peut-être qui peuvent dire aussi, je n'ai jamais couché avec la femme de mon prochain, ou... bon. Mais, avec la 10e parole, aucune auto-justification n'est possible. Parce que tout homme, a eu un mouvement intérieur de colère, c'est-à-dire de meurtre, de convoitise, c'est-à-dire de vol, ou d'adultère. Et c'est pourquoi Jésus, dans le Sermon sur la montagne, a pu intérioriser, plénifier, rendre compte de la plénitude de sens de tel ou tel commandement. Par exemple, il montre que la colère est déjà un meurtre, qu'un regard de convoitise jeté sur une femme est déjà un adultère. Attention, il faut bien distinguer ici entre ce qui relève du droit et ce qui relève de la morale. Le droit, je le répète, et ça c'est l'affaire des magistrats, le droit ne vise que les actions extérieures. Je vous l'ai déjà dit à 2 reprises, dans un cours antérieur et tout à l'heure dans mon cours. Et même l'Église ne peut pas juger du fort intérieur. Quand nous admettons un nouveau membre d'Église, nous l'admettons sur la base de sa profession de foi, mais non pas sur la base de sa nouvelle naissance ou de sa conversion. Lui peut nous dire « je suis converti » ou « je suis né de nouveau », c'est son affaire. Mais nous ne savons pas s'il est vraiment converti ou s'il est vraiment né de nouveau. Si bien que non seulement l'État ne peut pas juger sur le fort intérieur, mais même l'Église ne peut pas juger des choses intimes. Il y avait une formule classique que tous les théologiens de la Réforme ont reprise, c'est une formule classique, De intimis ecclesia non judicat. L'Église
ne juge pas des choses intimes, c'est-à-dire des choses que Dieu seul sait et connaît. Et c'est très important, ça. Voilà quelqu'un qui me dit « Je suis converti » ou « Je suis né de nouveau ». Mais ce n'est pas sur cette base-là que je vais pouvoir le recevoir dans l'Église. Parce que je ne peux pas juger, l'Église ne peut pas juger si cette personne est vraiment convertie et vraiment née de nouveau. La seule chose qu'elle peut, c'est que l'Église peut se rendre compte par la suite de l'inverse. À savoir que sur la manière dont cette personne parle et agit, elle n'est sûrement pas convertie ou née de nouveau. Donc on peut être assuré dans certains cas que quelqu'un n'est pas né de nouveau, n'est pas né, converti, mais à l'inverse, on ne peut pas juger que quelqu'un est vraiment converti, vraiment né de nouveau. L'Église simplement demande sur la base de la profession de foi. Crois-tu que Jésus-Christ est ton sauveur? Crois-tu que la parole de Dieu est vraie? Ou bien, comme on le faisait dans l'Église ancienne, est-ce que tu confesses comme vérité, par exemple, le symbole apostolique? Vous savez, le symbole qui commence « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Alors, nous recevons quelqu'un dans l'Église, nous l'admettons dans l'Église sur la base de la profession de foi. C'est pour ça que souvent, on parle d'Église comme Église de professants. Des églises de professants. Mais les églises de professants ne disent jamais « nous sommes des églises de convertis » ou « nous sommes des églises de gens nés de nouveau ». D'ailleurs, toute église de professants contient des membres qui ne sont pas convertis, ne sont pas nés de nouveau. Et aucune discipline ecclésiale ne fera jamais que l'on puisse se dispenser de l'adage « de intimis ecclesia non judicat ». Donc c'est très important. Nous ne pouvons voir, nous, que sur l'extérieur. Et alors, l'extérieur peut nous... la profession de foi. Et alors, l'inverse, alors là, nous pouvons voir. Imaginez quelqu'un qui nous dit « Je suis converti » et qui continue à vivre dans l'adultère. Ou bien « Je suis né de nouveau » et qui n'arrête pas de mentir. Alors, l'Église, là, voit. Ce n'est pas quelque chose d'intime. C'est quelque chose d'extérieur. On s'aperçoit, on sait qu'il commet l'adultère, on s'aperçoit, on sait qu'il ment. Alors on est obligé d'aller trouver la personne en question en disant, écoutez, je vous ai reçu, nous vous avons reçu dans l'Église sur la base de votre profession de foi, hein, mais maintenant vous montrez que votre profession de foi est indigne. Vous dites que vous croyez en Jésus-Christ, que vous croyez que Jésus-Christ est votre sauveur, que vous croyez que Jésus-Christ est votre sauveur, et puis vous vivez dans l'adultère. Voilà. Nous ne pouvons pas vous reconnaître. Donc c'est sur la base quand même de quelque chose d'extérieur. N'ont jamais dit, nous sommes des églises de convertis. Et jamais aucun pasteur d'une église de professants n'a pu dire, vous tous qui êtes convertis, vous tous qui êtes nés de nouveau. On ne peut pas s'adresser aux gens comme ça. La seule chose qu'on peut leur dire, c'est vous tous qui professez la foi chrétienne. Ah, ça on peut le dire, puisqu'on les a reçus sur la base de leur profession de foi. Et alors c'est pour ça que, même à une assemblée de gens dont on pourrait vraiment, par un jugement de charité, penser qu'ils sont tous convertis, qu'ils sont nés de nouveau, même à supposer qu'un pasteur soit convaincu que sa petite congrégation de 20 membres, ce sont tous des convertis, tous, il ne pourrait quand même pas s'adresser à eux en leur disant, vous tous qui êtes convertis, vous tous qui êtes nés de nouveau, parce qu'il ne le sait pas et parce qu'il ne le saura jamais. Et je dirais, il n'y a que Dieu qui sait si quelqu'un est converti et né de nouveau. Et même quelqu'un peut croire qu'il est converti et qu'il est né de nouveau en se trompant. Et c'est pour ça qu'on est même obligé, dans certaines prédications, d'évoquer cette possibilité. Donc, vous voyez, nous trouvons devant quelque chose d'important. Ce dixième commandement, c'est un commandement qui échappe aux estimations humaines. Il y a des cas où on peut dire ouvertement « Celui-là a dit un faux témoignage contre ton prochain, et c'est vrai. » Ou bien « Celui-là a dérobé, et c'est vrai. » Ou bien « Celui-là a commis l'adultère, et c'est vrai. » Ainsi de suite. Et même, il y a des cas où on peut dire « Celui-là a une idole à côté de Dieu. Son idole, c'est Mammon. » Mais la convoitise échappe.
Elle échappe. Ce matin, quelqu'un a rappelé la distinction des réformateurs entre les péchés grossiers et les péchés subtils. Les péchés grossiers, tout le monde les voit, à commencer par celui qui les commet, mais même les autres le voient, ou au moins un autre, quelqu'un le voit. Mais la convoitise, elle est tapie dans le secret du cœur. Et c'est pour ça, personne n'est indemne de ce péché-là. Même quelqu'un qui n'a jamais commis l'adultère extérieur est quand même adultère. Même quelqu'un qui n'a jamais volé au sens extérieur est un voleur. Qui d'entre nous peut dire qu'il n'a pas, d'une façon ou d'une autre, jamais dérobé? Nous avons tous dérobé. Ne serait-ce que dérobé à Dieu. Nous avons tous dérobé. Donc, vous voyez, c'est l'intérêt de ce commandement, c'est qu'il intériorise les 9 autres. Il montre que tous les commandements de Dieu, et ça, c'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans la Torah. Il montre que les 9 autres commandements, finalement, ne concernent pas que des réalités extérieures, mais des réalités intérieures. Et c'est pour ça que dans le Sermon sur la montagne, lorsque Jésus a interprété plusieurs des commandements, il a dit contre les pharisiens l'enseignement de la Torah. Quand Jésus montre et dit, quand Dieu dit tu ne commettras pas d'adultère, ça veut dire aussi tu ne jetteras pas sur une femme un regard de convoitise. Pourquoi est-ce que Jésus peut dire ça? Parce que justement, le 10e commandement vient montrer que c'est bien le sens des 9 autres. À savoir que Dieu, lui, c'est différent du droit. C'est différent même du droit ecclésial, de la discipline ecclésiale. Parce que le droit humain ne peut juger que sur les apparences, sur les paroles, sur les faits et gestes. Tandis que Dieu, lui, ne juge pas l'extérieur, il sonde les reins et les cœurs. Il lit les pensées coupables des cœurs. Et c'est du cœur que jaillissent les péchés. C'est du cœur que tout se passe. Nos actes extérieurs ne sont jamais que l'expression de ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Dans ce que la Bible appelle le cœur qui n'est bien sûr pas le muscle qui sert à répandre le... Ce qui n'est pas non plus le siège des seuls sentiments. Le cœur, c'est notre moi caché, c'est notre personne intime, c'est le point de concentration de toute notre existence. Ça, c'est le sens en hébreu de lève. C'est du cœur que viennent les pensées, pas seulement les sentiments, les pensées. Le cœur, c'est moi. Le cœur, c'est moi caché derrière toutes les apparences du moi. En fait, d'ailleurs, quand nous regardons la Genèse, nous constatons quelque chose d'intéressant. Il nous a raconté que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Vous savez, il y a des enfants... Mais quelquefois intérieurement, il y a des grandes personnes, mais en tout cas, les enfants extériorisent. Il y a des enfants, quand ils voient quelque chose de bon à manger, ils font « miam, 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 c'est bon à manger ». Tout de suite, ils ont envie que ça se mange. Ils en mangent. Mais les adultes aussi. Agréable à la vue. C'est sympathique. Ils en mangent. Et alors ensuite, on traduit « précieux pour ouvrir l'intelligence ». Or, le mot hébraïque qui est là employé, c'est « nermad ». Et Nermat, c'est exactement la même racine que l'otarmod, tu ne convoiteras pas. La bonne traduction, ce ne serait pas de traduire par précieux pour ouvrir l'intelligence, mais convoitable pour ouvrir l'intelligence. Bon à manger, agréable à la vue, convoitable pour l'intelligence. On est presque obligé de traduire comme ça si l'on traduit aussi tu ne convoiteras pas. Parce que c'est la même racine, Ramad. La même racine, Ramad, est dans le « Tu ne convoiteras pas » de la 10e parole, et dans le « convoitable pour ouvrir l'intelligence » de la Genèse. La convoitise. Et d'ailleurs, si l'on analyse le premier péché, c'est-à-dire le péché vraiment originel, le péché fondamental, le péché premier, on s'aperçoit que c'est la convoitise d'être Dieu. Ou plutôt, la convoitise d'être comme Dieu, capable de décider du bien et du mal. Et c'est ça que dit le serpent. Vous serez comme Dieu. vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est vous qui déciderez le bien et le mal. Le fois que vous aurez mangé de cet arbre, c'est vous qui aurez décidé ce qui est bien et ce qui est mal. Oh, évidemment, puisque au lieu de faire le bien que Dieu ordonnait, on aurait fait le mal que Dieu défend. Donc vous voyez, ça a aussi un rapport avec la convoitise. Et dans Romains 7, saint Paul montre bien que la convoitise est ce péché radical. Je me permets de lire ce petit passage. C'est dans Romains, chapitre 7, versets 7 et 8. Ma voix continue à faiblir. Je pense que il va falloir que je m'arrête, parce que je m'aperçois que je ne peux plus parler. Ce n'est pas la volonté qui me manque, mais c'est la capacité. Romains 7, versets 7 et 8. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Certes, non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Au fond, le péché, c'est que lorsque l'homme a entendu la loi de Dieu, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de celui-là, l'homme a convoité de faire l'inverse de ce que Dieu lui ordonnait. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment dire que c'est la convoitise d'être comme Dieu pour décider le bien et le mal, et la convoitise de faire le contraire de ce que Dieu ordonnait, qui est à la source de tout le malheur du genre humain. Voilà. Eh bien, je m'arrête là. Il nous reste un petit moment. S'il y a une question, mais j'aimerais bien que vous ayez un peu pitié de moi. Ne me posez vraiment que s'il y a vraiment une question. Très bon, parce que, vous voyez, j'arrive à avoir ma gorge à peu près complètement inexistante.
Nous voulons recommander l'arrêt de secours immédiatement.
Non, mais là, j'ai mon verre, là. Hein.
Quelqu'un se lance dans la proposition.
Oui. Bonne vacances. Reposez-vous.
Bon.